Frères et sœurs, aujourd'hui dans notre liturgie de la parole de cette solennité, tout commence par la fin, en quelque sorte. Une vision reçue par saint Jean de ce qui a tout l'air d'être la scène finale de l'histoire des hommes et du monde. On a pu dire que cette vision était donnée à l'Église à la fois naissante et persécutée, comme un encouragement consolateur et une promesse ferme que la bonne nouvelle triompherait ultimement, que l'amour et la foi seront sûrement récompensés par Dieu dans la personne des disciples du Christ, triomphe ultime des saints qui auront donné leur vie pour le seul saint, l'agneau de Dieu. Oui, cette interprétation est tout à fait juste comme telle. Elle doit cependant se laisser approfondir et enrichir, et cela pour deux raisons. D'abord, la vision évoque une foule innombrable, comme si nous étions incités à regarder beaucoup plus en avant dans le temps de l'histoire que fixé sur l'époque où la vision a été reçue et transcrite, aux générations qui ont fidèlement attendu la venue du Messie et aux tout premiers membres de l'Église doivent être ajoutés 2000 ans de christianisme et même au-delà, car nous ne savons ni le jour ni l'heure de la venue glorieuse du Christ. Et puis, la grande illusion même de nombreux chrétiens est de lire la Sainte Écriture dans un seul sens, de la première page du livre jusqu'à la dernière, au fond comme les histoires, les romans, les contes, alors qu'on ne peut la comprendre qu'à partir de sa fin. Mais si le commencement est dans la fin est et doit à tout prix avoir un commencement dans l'aujourd'hui. Rappelons-nous ces paroles de Jésus. « J'avais faim et vous m'avez donné à manger. Venez. » En christianisme, tout commence par la fin qui est le but de notre foi. Et voilà pourquoi la Toussaint est première. Quelle est cette foule immense de toutes nations, tribus, peuples et langues? Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Et la réponse nous est donnée, ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. Nous les appelons les martyrs, c'est-à-dire les témoins. Témoins de l'agneau, témoins du Christ jusqu'au don de leur vie terrestre, témoins du témoin par excellence. Depuis plus de 2000 ans, ils, elles, sont bien une foule innombrable, et même foule démultipliée des saints et des saintes, comme Pavin, connu par nos calendriers et nos fêtes liturgiques, mais aussi les inconnus, de loin les plus nombreux. Notre solennité du 1er novembre, la fête de Toussaint, le saviez-vous, a été instituée de très longue date, au 8e siècle, et pour une fois, pas à Rome, par un pape, mais en pays celtique, par réclamation populaire. Or, le 1er novembre est une solennité, autrement dit, comme un dimanche. La Toussaint est donc avant tout la profession de foi en Jésus mort et ressuscité. Il est vivant celui qui était mort. Ce fut et c'est le credo de ces milliards de saints et saintes depuis le matin de Pâques. Réjouissons-nous avec eux de partager leur foi et imitons leur espérance de leur propre résurrection au dernier jour. Et voilà pourquoi un moment arriva où l'Église ressentit le besoin de faire suivre immédiatement la solennité de Toussaint par un jour dédié à la commémoration de tous les fidèles défunts. Car nous croyons aux membres de l'Église que tous les humains qui auront mis leur espérance dans le Christ Jésus et auront vécu de sa charité ressusciteront pour la vie éternelle. C'est ainsi du moins que je comprends, peut-être vous avec moi aussi, le mot de Thérèse de Lisieux, « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Le sens de cette commémoration s'enracine bel et bien dans la solennité de la Toussaint. Les martyrs s'écriant « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau », ce sont nos frères et sœurs aînés de la même famille des fils et filles de Dieu. Et leur foule ne demande qu'à être grossie, des foules qui de siècle en siècle écoutent Jésus de Nazareth, comme celles qu'ils voyaient ce jour-là en terre de Galilée, selon le récit évangélique que nous venons d'écouter. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Notez bien que l'évangéliste Matthieu, qui est le seul à rapporter cette scène, dit que c'est en voyant les foules qui venaient vers lui que le Christ a gravi cette montagne, s'est assis et a commencé un long enseignement. Pas en voyant ses disciples, qui étaient bien entendu avec lui, mais en voyant les foules. De sorte qu'il y a comme deux cercles autour de lui, le tout petit, minuscule de ses disciples, et au-delà l'immense cercle de foule, les gens, quoi. Deux cercles, mais alors, à qui Jésus s'adresse-t-il ? Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Qui donc ? Les disciples, sans aucun doute, sinon on n'aurait pas été leur maître, leur enseignant au quotidien. Mais il est clair que Jésus veut s'adresser aussi aux foules. Un indice clair, c'est cette formulation répétée « Heureux les pauvres, heureux les doux ». Seule la toute dernière de ces neuf béatitudes, comme on les appelle, s'adresse à un groupe précis d'humains. « Heureux êtes-vous si l'on vous insulte » et qui désigne à l'évidence les disciples, « si l'on vous persécute à cause de moi ». Les huit précédentes dressent certes un portrait des vrais chrétiens, mais en ne s'adressant pas exclusivement à ses disciples du moment, Jésus parle aux foules. Je veux dire à tout être humain présent dans une foule et qui vit déjà quelque chose de la vie d'un disciple déclaré. Et bien que cela aussi nous réjouisse, car ça nous dit que la bonne nouvelle, elle est très loin d'avoir atteint toutes ses limites, qu'elle est très loin d'avoir, si j'ose dire, fait le plein. Comment vivre cette communion des saints et avec eux ? Je dirais d'abord, tout simplement, en nous entraidant à vivre les béatitudes de Jésus, en priant les uns pour les autres. La veille de Toussaint, de l'an 1576, elle avait déjà 61 ans, avec son humour si percutant, Thérèse d'Avila adressa cette demande à son père spirituel. « Priez pour moi, afin que je devienne une bonne religieuse. Mieux vaut tard que jamais. » Eh bien, usons du même humour mobilisateur. Il s'appelle Andrea Santoro. Prêtre du diocèse de Rome, il m'a formé à ce si beau ministère de curé de paroisse missionnaire entre 1986 et 1989. Il a achevé sa course terrestre un 5 février 2006, là où il avait fini de servir l'Église, dans la petite église de Trabzon, sur les bords turcs de la mer Noire, assassiné en haine de sa foi. Il écrivait, je vous traduis, « Notre avantage à nous, chrétiens, de croire en un Dieu désarmé, en un Dieu qui attire avec l'amour et ne domine pas avec le pouvoir, est un avantage à ne pas perdre. » C'est un avantage qui peut sembler un désavantage et perdant, et il l'est aux yeux du monde. Mais il est victorieux aux yeux de Dieu et capable de conquérir le cœur du monde. Prenez, buvez, ceci est mon sang versé pour la multitude. Loué sois-tu, Seigneur, pour tes saints et saintes, connus ou pas, loué sois-tu pour quiconque d'entre nous dont tu désires tant qu'il partage ton unique bonheur. Loué sois-tu de nous avoir tous appelés à ta vie éternelle. Amen.